L'invité du jour.
Et Matt, on va te retrouver tout de suite avec l'invité du jour.
Et oui, on peut même dire qu'on commence, c'est ludique, hein, puisqu'on va parler jeux de société avec Yann qui est dans nos studios, des studios Bombits. Bonjour Yann.
Bonjour tout le monde.
Alors, les studios Bombits, c'est à Quimper, hein, donc c'est un éditeur breton. Depuis quand ça a commencé l'aventure Bombits ?
Bombix a été créé en décembre 2011, est arrivé sur Quimper en 2014.
Ouais.
Et fonctionne depuis dans les locaux à Quimper.
Et vous êtes combien à travailler au total ?
Bombix, c'est une petite équipe, il y a 4 personnes.
Ouais.
Il y a Erwan et Loïc Asquette qui sont les fondateurs de la maison d'édition.
Ouais.
Et ensuite, il y a Laura qui se charge de tout ce qui est éditorial et production. Et Juliette, que je remplace actuellement,
ouais,
qui est chargée de tout ce qui est événementiel et communication.
D'accord. Ça fait combien de temps du coup vous remplacez ? Ça fait combien de temps vous travaillez chez...
Moi ça fait depuis plusieurs années que je fais de l'animation avec eux,
ouais,
sur les différents salons. Et quand Juliette a eu un double heureux événement en début d'année...
D'accord, des jumeaux donc.
Voilà, j'ai pris son relais pour quelques mois et elle revient en septembre, mi-septembre.
D'accord. Alors est-ce que vous avez toujours été passionné par le jeu de société ?
Oui, enfin oui, du peu que je m'en souvienne on va dire.
Ouais.
Je l'utilisais énormément dans mon activité parce que je suis animateur de formation.
Ouais.
Et j'ai travaillé dans plein de structures d'animation, que ce soit avec des ados ou des plus jeunes. Et le jeu, à mon sens, était sous-exploité à ce moment-là.
D'accord.
Et quand j'ai décidé d'arrêter, pour différentes raisons, j'ai mis l'accent sur le jeu de société pour en faire mon sujet d'animation. Et donc je travaille avec le jeu de société depuis maintenant une quinzaine d'années au quotidien. Et c'est vraiment, vraiment un outil très facile à travailler dans le sens où il y a énormément de renouvellement.
Ouais, ouais, ça change beaucoup. Alors, combien de jeux d'ailleurs sont commercialisés chez Bombits ?
Je crois qu'on doit être à peu près autour de 25 maintenant.
D'accord.
Maintenant, en comptant les jeux de base et les extensions. Et il y en aura d'autres, bien évidemment, qui vont encore arriver, ouais.
Et c'est une fréquence de quoi ? C'est un ou deux par an ?
Voilà, entre un et deux par an. C'est difficile de faire beaucoup plus à notre niveau, dans le sens où on attache beaucoup d'importance au développement en interne et au travail graphique et à l'idée de faire des choses plutôt bien faites plutôt que de faire beaucoup de choses.
Ouais. Alors, Takenoko, c'est votre plus grosse vente aujourd'hui. Est-ce que c'est un jeu qui s'exporte bien, qui se vend toujours aussi bien ?
Oui, qui se vend toujours aussi bien, c'est pas un souci. Il y a une extension qui a aussi très bien marché et le jeu est présent dans énormément de pays en Europe et aux États-Unis où il est en train de se réimplanter. Il y a eu des petits changements d'implantation là-bas et c'est très prometteur, effectivement.
On sait à peu près combien il y a de ventes de Takenoko dans le monde ?
Oh la colle, si je dis pas de bêtises, on a dû dépasser les 700 000 boîtes.
Ah oui, d'accord, ouais, donc c'est le gros jeu, forcément.
Ouais.
En France, il doit y avoir à peu près un petit peu plus de 30 éditeurs. Est-ce que c'est dur de se démarquer ?
Alors, la concurrence est rude, mais amicale, on va dire, parce que c'est un petit milieu où on se connaît tous. Et pour se démarquer, c'est d'abord le travail du jeu, le jeu en lui-même qui va faire la différence. On ne cherche pas à se démarquer en tant que maison d'édition. Bien évidemment, Bombix a une petite patte, mais c'est surtout le jeu qui va faire la grosse différence. Et vu la quantité de jeux qui arrivent tous les ans, c'est pas si simple effectivement de se démarquer.
De se démarquer. Alors justement, est-ce que c'est un choix aussi de Bombix de rester en Bretagne, à Quimper, pour se développer ?
C'était un choix d'Erwan et Loïc, les fondateurs, de quitter Paris, pour venir sur Quimper,
ouais,
et de s'installer pour avoir un mode de vie plus paisible, à mon avis aussi. Et de ce qu'ils m'ont dit, et de ce que j'en sais, c'est que c'est pas un souci de travailler à distance par rapport à d'autres points névralgiques de fabrication, de communication ou d'illustration, parce que beaucoup de choses se font par Internet maintenant.
Ouais.
Il y a beaucoup de travail par Skype ou par mail, que ce soit en France ou avec l'étranger. Donc c'est pas un problème d'être sur Quimper qui peut paraître éloigné du reste de la France, si ce n'est pour quelques événements où ça nous oblige à nous déplacer un petit peu plus.
Oui, vous étiez certainement présent à Paris Ludique.
Ouais.
Voilà,
on était à Paris, on a fait la quinzaine à Parthenay où on avait,
ouais,
un local en dur où on a pu profiter effectivement de la totalité du festival. Et les prochaines séances, c'est Bruxelles avec le Bruxelles Game Festival et Orléans fin août.
D'accord, donc vous bougez pas mal.
En France, oui.
En France. Est-ce que c'est dur de trouver le bon jeu ?
Oui.
Est-ce que c'est dur de trouver des Takenoko, par exemple ?
Oui, des Takenoko, il n'y a pas toutes les semaines, effectivement. Et puis on travaille beaucoup au coup de cœur, en fait. Chez Comics, c'est ça. Et quand bien même on a un coup de cœur pour un jeu, il va lui falloir beaucoup de temps, souvent beaucoup de temps pour savoir comment le sortir réellement, d'un point de vue éditorial, de savoir dans quel univers on va le projeter, de savoir quelle illustration on va lui mettre dessus. Ça peut prendre beaucoup d'années. Un de nos prochains jeux, là, de Johan Levet, ça doit faire quelque chose comme 5 ans.
Que vous êtes dessus.
Ouais, qu'on l'a.
Ah oui.
Donc il y a toute une gestation qui fait que tant qu'on n'a pas le déclic pour dire tiens, c'est ça qu'on va faire avec cette mécanique, avec cette idée, et ben on ne sort pas.
D'accord.
Voilà, c'est un choix. Les auteurs le savent, en fait, quand ils arrivent chez Bombix pour proposer un jeu, ça peut être parfois un petit peu long, mais ils savent qu'au final, leur jeu va être traité le mieux possible, en fait.
Ouais. Alors, une fois justement que le jeu a été validé avec l'auteur, c'est vous qui vous occupez de tout, de choisir l'illustrateur, de le mettre en fabrication
Ouais, exactement. C'est-à-dire que le choix est fait chez Bombix de donner à l'auteur toute sa place et de laisser sa responsabilité d'auteur aussi. C'est-à-dire quand il arrive avec une règle, quand on nous présente sur un festival ou lors de rendez-vous particuliers, on demande à ce que l'auteur ait des règles un peu précises et on va le pousser dans cette voie-là. C'est-à-dire qu'on va très peu intervenir en disant ça c'est pas bien, il faut changer, il faut faire comme ça. On va dire ça c'est pas bien, ça nous plaît pas, qu'est-ce que tu nous proposes ? C'est
d'accord.
Pas nous qui avons décidé de dire voilà, on va faire comme ça, on va changer complètement. On laisse l'auteur travailler jusqu'au bout et on se charge après de tout le développement. Tout ce qui est administratif, illustrateur. Et donc c'est des propositions qui arrivent de différents endroits, des illustrateurs, qu'on a repérés au cours du temps, sur des artbooks ou sur des mails qu'on peut recevoir, sur des rencontres sur des festivals. On leur propose un cahier des charges, on leur demande si ça fonctionne pour eux en termes de timing. Et après, on se charge de tout ce qui est production, choix, comparatif, maquette et. Et après, on charge à nous de trouver la fabrication, en fait, tout simplement.
D'accord.
Et l'acheminement.
Alors justement, quel type de jeu on va retrouver chez Bombix ? Il y a beaucoup de petites boîtes en métal des cartes.
Ouais, il y a deux sortes de jeux, on va dire, globalement. Le panel est très très large. À partir de 4 ans jusqu'au joueur un peu plus expert et âgé.
Ouais.
Même si l'âge n'attend pas la valeur en termes de jeux de société.
C'est plus famille plus ou
il y a de tout. Il y a de tout. Vraiment, on a des jeux comme Minuscule qui vont être disponibles et jouables à partir de 4-5 ans, et on va avoir des jeux comme Imaginarium là, qui sont sortis il y a un an et demi, qui sont vraiment des jeux un peu plus experts, sans être hyper compliqués, mais ça balaie tout le panel des joueurs possibles.
En fait. D'accord. Ouais. Il y a vraiment tout style. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est quelle est la durée de vie d'un jeu chez Bombix. À partir de quel moment vous dites là ça se vend plus assez, on n'en refabrique plus quoi.
C'est difficile à dire en fait. C'est lié à deux éléments à mon sens, à l'ancienneté du jeu d'un premier point de vue, parce qu'il y a telle quantité de jeux qui fait que l'exposition en vitrine ou dans les boutiques va être limitée dans le temps.
Ouais.
On va dire que maintenant, au bout de 3 mois, soit le jeu il a commencé à faire sa place et à gagner un petit peu le cœur des gens et le bouche à oreille qui va être en transmission, ou alors il va vite être supplanté par d'autres nouveaux jeux qui vont arriver. Donc
d'accord.
Ça c'est une première chose, les jeux poussent un peu, donc en termes d'ancienneté, il faut avoir fait sa place pour pouvoir continuer à ce qu'un jeu continue à
perdurer. Aujourd'hui, il y a des jeux chez Bombix que vous avez retirés du marché ?
Oui, on s'apprête à refaire notre catalogue, à le retravailler. Et il y a 2 ou 3 jeux qu'on va sortir du catalogue, tout simplement parce qu'ils ne se vendent plus, ou parce qu'ils sont trop anciens, et qu'il y en a d'autres derrière, et qu'on ne peut pas non plus avoir un catalogue de 50 jeux ou 25 jeux en permanence.
Ouais.
On est obligé de cibler forcément les plus récents, ceux qui marchent le plus, et ceux qui marchent heureusement ne fonctionnent plus ou parce qu'en termes de vente, on est obligé de les retirer du catalogue. Ouais. Donc le fait que les autres arrivent, c'est toujours un risque quelque part que d'autres plus anciens disparaissent.
Ouais. Est-ce que ça vous est arrivé un jour qu'il y a un auteur qui est venu vous proposer un jeu et que vous n'avez pas choisi et que finalement ça a été une grosse vente?
Alors j'étais pas là à ce moment-là, mais oui, il y a quelques jeux comme ça qui sont passés dans les mains de Bombix, et Bombix a dit non, on ne peut pas, et en s'en mordant un petit peu les doigts derrière, comme Zombicide par exemple, des choses comme ça.
D'accord,
Le plus de personnes à pléger sur Kickstarter notamment.
Ouais. Alors, pour qu'un jeu fonctionne, est-ce qu'il faut vraiment, absolument, sortir des extensions ? Alors, c'est le cas de Takenoko, qui a eu une extension.
Oui.
Et Abyss.
Qui en a eu deux.
Qui en a eu deux. Est-ce qu'il faut sortir des extensions pour que... Est-ce que si on sort une extension, ça veut dire que bah, le jeu cartonne, donc il faut toujours alimenter un peu le jeu. Le jeu à lui-même ne suffit pas.
Oui et non. C'est vrai que quand un jeu fonctionne, c'est toujours plus facile de travailler sur une extension derrière parce qu'on sait qu'on peut se baser sur l'impact qu'a eu le jeu au départ.
Ouais.
Et sur les joueurs, on sait que globalement, il y a à peu près 30% des gens qui ont acheté le jeu qui vont certainement aller sur l'extension au moins. Maintenant, c'est pas une obligation parce que il faut que le jeu s'y prête aussi.
D'accord.
Il y a des jeux qui peuvent être très très bien, très très bons, bien fonctionner, mais si la mécanique en elle-même se suffit à elle-même et une extension n'apporte rien au jeu, en tout cas nous c'est pas notre politique de sortir une extension pour sortir une extension, c'est qu'à chaque fois qu'on l'a fait, ça a apporté quelque chose, c'était un développement. Là sur Imaginarium, il y a eu pas mal de demandes de la part des joueurs d'avoir une nouvelle, d'avoir une extension.
Ouais.
Le jeu fonctionne très très bien en termes de mécanique, de plaisir, d'expérience et de vente aussi d'un point de vue commercial, mais d'un point de vue extension, pour l'instant, il n'y avait pas de souhait. Nous, ce n'était pas un souhait pour nous de sortir une extension. Il a fallu que les auteurs, eux, Bruno Catala et Florian Siriex, qui en sont les auteurs, proposent quelque chose.
Ouais.
Parce qu'il faut que eux aussi, ils trouvent leur compte.
Mais oui, c'est eux qui ont écrit le jeu, quoi.
Oui, tout à fait. Et il faut qu'ils se disent, voilà, cette extension va amener quoi et comment on va la jouer et comment elle va être interprétée par les joueurs. Qu'est-ce que ça va pouvoir apporter ? Il faut vraiment que ça apporte quelque chose, sinon on ne le fait pas.
Ouais. Dans Takenoko, c'est l'histoire justement qui a les petits en plus, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est Madame Panda qui arrive et qui court après Monsieur Panda dans le jeu, qui lui ne pense qu'à manger du bambou. Et comme dans la réalité, c'est Madame Panda qui a ce besoin de reproduction pour faire des petits, entre guillemets, qui est retranscrit dans l'extension et qui fait que quand elle arrive à la rejoindre sur une tuile, il y a possibilité pour les joueurs de récupérer des jetons bébé panda avec des aménagements, des améliorations pour le jeu. Ouais.
Alors, on va parler maintenant de la nouveauté. Alors, Conspiracy, donc ça sort quand ?
Allez, on va croiser les doigts et dire que ça sort pour fin octobre pour Essen.
Pour fin octobre, d'accord. Donc est-ce que c'est ce qu'on appelle le Abyss Pocket ?
C'était son premier nom, mais c'était vraiment le nom que Bruno Catala et Charles Chevalier avaient mis sur la boîte de leur prototype quand ils ont dû nous proposer. Mais il ne s'appellera pas Abyss Pocket pour plusieurs raisons. On en a joué un petit peu de ce nom-là en disant que ce ne serait jamais Abyss Pocket. Et donc voilà, il s'appellera Conspiracy tout simplement, d'accord, dans l'univers d'Abyss. Et on voulait pas qu'il s'appelle Pocket, enfin Abyss quelque chose.
C'est quelque chose de poche ou...
Voilà, quelque chose Pocket signifiait aussi que c'était un Abyss en rétréci, en moins, en ramassé, alors que c'est pas du tout le même jeu. On reste dans le même univers, mais c'est pas du tout le même jeu. Et l'idée de faire Abyss quelque chose, ça avait déjà été formulé pour Abyss Kraken et Abyss Léviathan, qui étaient des extensions d'Abyss.
Ouais.
Et on voulait pas l'appeler Abyss quelque chose parce que ça amenait l'idée que c'était une troisième extension. Alors que c'est pas le cas du tout, ça va être une boîte métal comme les bâtisseurs.
Ouais.
Comme Captain Carcass, et qui sera vendu un petit format à 15€.
D'accord.
Avec un jeu dans l'univers d'Abyss, mais totalement différent.
Alors justement, Abyss aura 5 ans à la fin de l'année. Est-ce que vous prévoyez quelque chose autour d'Abyss ? On sait que déjà, il y a eu pas mal pour les collectionneurs. Hein, il y a au moins 6 boîtes, je crois.
5
boîtes.
Pour l'instant.
Pardon, voilà, donc pour l'instant, donc 5 boîtes. Est-ce que vous prévoyez quelque chose pour l'anniversaire ?
Oui, ouais. Effectivement, Abyss a 5 ans à la fin d'année. Conspiracy fait partie de cet ensemble de choses autour d'Abyss pour la fin d'année.
Ouais.
Donc c'est le premier élément. Ensuite, d'un point de vue collectionneur, effectivement, pour ceux qui aimaient les 5 éditions, les 5 boîtes différentes à la sortie, on va le retrouver sur Conspiracy déjà.
D'accord.
C'est-à-dire que la petite boîte elle-même aura aussi 5 couvercles différents au départ, et les gens pourront choisir exactement la guilde qui leur fait plaisir.
Ou prendre tous s'ils veulent les collectionner.
Il n'y a pas de problème. Mais en plus, on va ressortir une édition spéciale d'Abyss, le jeu de base, avec une 6e couverture.
D'accord.
Qui n'existait pas, la guilde des ambassadeurs qui n'existait pas, elle arrivera en fin d'année aussi. Ça, c'est la troisième chose dans ce pack anniversaire, on va dire. On va ressortir aussi le tapis de jeu. ouais. Le playmat qui permettait de jouer avec plus de plaisir, encore plus que le plateau, sur lesquels les deux extensions seront disponibles et jouables dessus.
Ouais.
Et pour terminer, on va avoir sortir des protège-cartes spécifiques pour les passionnés d'Abyss, avec des décors complètement dans l'univers qui devraient énormément ravir les passionnés d'Abyss.
Les oui. passionnés d'Abyss. Alors, à part Abyss, est-ce qu'il y a d'autres jeux de prévus ?
Oui, on en a officiellement trois déjà qui vont sortir. Le premier s'appelle pour l'instant Dice Quest de Cédric Chaboussi. Il devrait sortir autour de février pour Cannes, on va dire.
D'accord.
Festival de Cannes l'année prochaine. Un jeu de dés, de rencontres un peu magique dans un univers un peu sombre qu'il va falloir éclairer justement
ouais.
Par une sorte de quête où plusieurs compagnons vont venir nous rejoindre. Et certes, tous ces compagnons auront des petits pouvoirs, des petits effets qu'il faudra aménager les uns par rapport aux autres. Ça sortira ça en février donc. Et puis on a une petite boîte métal dans laquelle la petite ludothèque qui sortira ensuite. Un jeu de Thomas Dupont qui s'appelle pour l'instant Quarter, mais je vais certainement changer de nom.
Ouais.
Qui est un jeu de pose de cartes et d'optimisation dans l'espace, de superposition de cartes les uns par rapport aux autres. Et enfin, on a un gros jeu, on va appeler gros jeu en termes de règles, de durée, et pas forcément de complexité, mais de règles, qui s'appellera Humanity, de Johan Levet,
mm-hmm.
qui avait fait Myrmes avant, et qui revient à sa grande passion des gros jeux un peu complexes, où il y a beaucoup de choses dedans, où là, les joueurs essaieront d'installer sur Titan, un des satellites de Saturne, d'installer une base à la fois humaine et scientifique en allant chercher des choses qui sont en gravitation autour de l'astre, puisque ça devient compliqué de s'en échapper une fois qu'on y est installé. Et en fonction d'où se situera la navette et la station
ouais.
relais, et ben ça prendra de plus ou moins de temps de récupérer ces différents modules, et le temps ne sera pas le même pour tout le monde.
Il faudra gérer ces gros jeux.
Oui, c'est du gros jeu. Une partie d'une heure et demie, deux heures, on va dire.
Ouais. Voilà. Alors justement, est-ce que le jeu est en plein boom ? Est-ce que, d'ailleurs, au niveau des médias aussi, est-ce que ou le festival, c'est encore le meilleur moyen pour communiquer autour du jeu ?
Le jeu ne connaît pas pour l'instant de crise, on va dire, en termes commercial.
Ouais.
Depuis pas mal d'années, il y a beaucoup de secteurs qui ont chuté, qui ont vu leurs ventes décroître. Le monde du jeu, le petit monde du jeu de société n'a jamais connu ça pour l'instant, est en augmentation croissante, même si c'est pas une énorme augmentation, mm-hmm. ça continue à croître. Donc ce qui en fait un secteur assez vivant. Maintenant, quel est le meilleur moyen pour continuer à travailler là-dedans ? Ça va être de produire des jeux et montrer ces jeux-là, en fait, et la rencontre qu'on va avoir avec le public en festival, c'est justement, à mon sens, un des meilleurs moyens de continuer à promouvoir le jeu, de par l'expérience que les joueurs, eux, vont avoir vécue et dont ils vont parler derrière à leur entourage.
En fait. Ouais.
À la différence du jeu vidéo, éventuellement, ou de la bande dessinée, c'est une activité qu'on partage très souvent à plusieurs et qu'on va aussi relayer à plusieurs. En ayant quelque chose de commun à raconter.
Ouais.
On se connaît pas, on se connaît rien l'un sur l'autre. Si on fait une partie, on aura ça en commun.
Ouais.
Et on va pouvoir échanger là-dessus. Et c'est comme ça, souvent, que des discussions, des échanges se naissent. Et le jeu de société a cet avantage-là, c'est que voilà, il peut se relier de bouche à oreille assez facilement.
Mais en tout cas, merci beaucoup Yann d'être venu sur Millennium. On rappelle donc que les studios Bombits sont à Quimper, hein, donc en Bretagne. Merci Yann.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
Et on poursuit cette émission, Matt.
Oui, Greg.
Avec C'est Ludique.
Ouais, donc le 21 juillet 2019, hein, le Planétarium de Bretagne à Pleumeur-Baudou a organisé une journée spéciale pour célébrer le 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Vous allez me dire, mais on parle de science ou de jeu ? Eh bien, on parle de jeu, car je vais vous parler aujourd'hui du jeu Décrocher la Lune des studios Bombits, un éditeur breton. Hein, Yann est d'ailleurs toujours dans les studios. Alors, il y a des moments qu'on se dit qu'une simple ou plusieurs échelles suffiraient pour aller décrocher la Lune. Alors, c'est sûr, hein, il ne faut pas avoir le vertige, et en plus, il faut avoir de l'équilibre. Vous allez voir que c'est un jeu pas si simple qu'il en a l'air. Décrocher la Lune est un jeu qu'on pourrait dire poétique. Dans la boîte du jeu, vous allez trouver de nombreuses échelles en bois, un jeu où il ne faudra pas avoir la tremblotte et surtout la bonne stratégie pour mettre les autres joueurs en difficulté. À chaque tour de jeu, le joueur doit parvenir à placer une échelle en fonction des résultats du dé. Et oui, on joue avec un dé, et sur ce dé, donc, il y a trois possibilités. Si vous tombez sur une échelle, ça veut dire que l'échelle, une fois placée puis lâchée, ne doit toucher qu'une autre échelle déjà en place. Si le lancer de dé montre une double échelle, là, une fois placée et lâchée, l'échelle doit en toucher deux autres, ni plus ni moins. Et si le dé tombe sur la lune, et bien une fois placé et lâché, l'échelle ne doit pas toucher plus de deux autres échelles, mais surtout, et bien son point le plus haut doit dépasser toutes celles déjà en place. Bah oui, le but est d'aller quand même décrocher la lune. Alors si malheureusement vous n'arrivez pas à faire ce que le dé demande, et bien la lune sera triste et va pleurer et vous donnera une larme. La partie s'arrête si la dernière échelle est jouée ou si un joueur prend la dernière larme. Dans ce cas, il est automatiquement éliminé, même si d'autres joueurs avaient plus de larmes que lui. Ensuite, le joueur ayant le moins de larmes gagne la partie. En cas d'égalité, les ex-aequo jouent les échelles défaussées, avec systématiquement la face lune, plus haut, toujours plus haut, vers l'infini et au-delà, hein, comme diraient certains. Si jamais il reste un ex-aequo, les deux remportent la partie. À deux joueurs, le premier à recevoir trois larmes perd la partie. Alors pour conclure, eh bien, décrocher la lune est un nouveau jeu qui dépoussière un peu le traditionnel Badaboom, un jeu poétique qui change un peu ici, pas de monstre ni de méchant, un seul rêve pour vous, c'est d'aller décrocher la lune. On va tout de suite s'écouter, Greg, la réaction d'un des joueurs.
Décrocher la lune, un jeu d'adresse assez rapide à mettre en place, à mi-cheval entre Jenga et Mikado. On passe un bon moment, pas besoin de trop réfléchir et en même temps on rigole bien quand même.
Voilà, donc décrocher la lune, d'ici quelques minutes on va se retrouver pour parler d'un autre jeu de chez Bombits, c'est Abyss.
Juste, c'est ludique.
Et oui, on va repartir avec ces ludiques, Matt.
Et oui, et on va vous parler eh bien d'un gros jeu. Hein. Il y a tout, bah, Yann est toujours hein, dans les studios. Yann de Bombits. Alors Abyss, c'est un jeu avec un beau plateau. Les cartes sont très belles, avec de belles illustrations. Il y a aussi les tuiles hein, qui sont de bonne qualité. Et la bonne idée de ce jeu, niveau matériel, eh bien, c'est les perles. Alors le jeu, déjà, il y a plusieurs boîtes. Hein. Après, c'est une question esthétique, à moins que vous soyez donc collectionneur. Et là, forcément, vous allez les vouloir toutes. Ah, une chose importante encore avant de rentrer dans le jeu, on n'a pas parlé de l'auteur. Encore un nom dont on a parlé depuis début juillet, c'est bien sûr Bruno Catala, qui est aux manettes de ce jeu, accompagné de Charles Chevalier. Hein. Un jeu pour 2 et 4 joueurs, à partir de 14 ans, hein, pour une durée annoncée de 45 minutes, même si des fois ça dépasse un petit peu. Alors même si la mécanique du jeu se rapproche d'un stop et encore, on en est loin quand même. Allez, je vous explique les règles. Tout le monde connaît les abysses. Eh bien ici, vous devez récupérer des seigneurs des mers appartenant à 5 guildes différentes. Mais pour les récupérer, il va falloir les payer avec des alliés appartenant à 5 espèces différentes. Des crabes, des hippocampes, des coquillages, des poulpes et des méduses. Et chacune est associée à une valeur de 1 à 5. Alors sans ces cartes, vous ne pourrez pas recruter les seigneurs. Il est donc primordial d'en obtenir. L'acquisition de cartes peuples passe principalement par l'exploration des fonds marins, mais aussi des perles. Le joueur qui explore va dévoiler une par une les cartes de la pioche en espérant trouver eh bien, la carte qui l'intéresse. Mais il n'est pas le seul à jouer puisque chaque carte révélée doit d'abord être proposée à la vente à ses adversaires qui payera donc avec des perles. Ce n'est qu'après s'être assuré que personne ne souhaite ou ne peut acheter la carte en question que le joueur aura le droit de la prendre. Alors l'exploration prend fin lorsque le joueur trouve enfin une carte qui l'intéresse ou lorsqu'il atteint la fin de la piste en haut du tableau, hein, du plateau pardon. Dans ce cas, il devra obligatoirement récupérer la dernière carte retournée mais obtiendra un petit bonus, une perle pour récompenser sa prise de risque d'être allé jusqu'au bout. Les perles, vous l'avez compris, c'est la monnaie du jeu. Alors pendant son tour, un joueur peut également tomber sur l'une des cartes monstres. Dès lors, il devra décider s'il souhaite ignorer la créature et poursuivre normalement hein, son exploration dans l'espoir de trouver une carte peuple qui l'intéresse ou au contraire, eh bien, aller tuer le monstre. Ici, personne va être tué, rassurez-vous. Et récupérer eh bien, quelques bonus en fonction du niveau de menace actuel. Car quand un joueur choisit de ne pas faire le combat, il fait automatiquement grimper l'indice de menace. Ce qui veut dire que le prochain joueur qui fera un combat aura forcément de meilleures récompenses. À la fin d'une exploration, toutes les cartes qui n'auront pas trouvé preneur seront donc défaussées dans le conseil au centre du plateau. Il y en a 5 au total. Ça, c'est la première action possible, mais il y a une deuxième action possible. Au lieu de partir en exploration, un joueur pourra décider de demander le soutien du conseil et donc de récupérer l'intégralité d'un tas de cartes qui aura été avant eh bien défaussé. Ils seront donc toutes de la même espèce, exemple un joueur pourra récupérer tous les poulpes. Si vous n'explorez pas ou si vous ne demandez pas l'avis du conseil, eh bien vous pouvez faire une autre action, c'est-à-dire recruter un seigneur de la cour à l'aide des cartes peuples que vous avez acquises, car il y a des points. Tous les seigneurs n'ont pas les mêmes pouvoirs, mais pour les recruter, il faut au moins une carte correspondante au peuple du seigneur en question. Il est obligatoire d'utiliser le nombre précis de peuples exigés par ce seigneur, et il faut veiller à ce que la valeur de toutes les cartes utilisées soit au moins égale à la valeur requise pour ce seigneur. Alors on va prendre un exemple, c'est toujours plus simple. Un seigneur poulpe de valeur 9 qui nécessite l'utilisation de deux peuples différents pour être recruté. Le joueur qui souhaite l'obtenir pourra donc se débarrasser d'autant de cartes qu'il le souhaite, à condition qu'il utilise au moins une carte poulpe et que l'ensemble des cartes défaussées soit réparti entre deux peuples différents, et aussi eh bien, que la valeur totale des cartes jetées soit au moins égale à 9. Il faut savoir que les seigneurs ont des pouvoirs et rapportent des points de victoire, certes, mais ils permettent également de poser des lieux, lieux qui permettent aussi d'obtenir des points de victoire. Alors certains seigneurs possède également des clés, et lorsque vous avez réussi à gagner une troisième clé, soit grâce à un seigneur, soit aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après avoir battu un monstre, eh bien vous allez récupérer une tuile de lieu. Tous les lieux sont différents, avec différents points de victoire aussi. Un exemple, car c'est toujours plus simple, je vous l'ai dit, un lieu donnera un nombre de points par seigneur poulpe que le joueur possède. Le joueur ayant réuni les trois clés pourra donc choisir le lieu de son choix, soit parmi les tuiles déjà visibles, ou tenter sa chance en piochant jusqu'à 4 nouvelles tuiles, mais il devra alors choisir une tuile parmi celles qui vient de piocher et reposer les autres, ce qui laissera donc plus de choix au prochain joueur, et ainsi de suite. Alors je vais résumer rapidement, quand c'est votre tour de jouer, vous aurez le choix de faire l'une des trois actions suivantes. Vous partez faire l'exploration avec un système de mise aux enchères, vous prenez un tas d'une espèce d'alliés dans le conseil, ou vous achetez un seigneur. Celui qui gagne la partie est celui qui a le plus de points de victoire. On arrête le jeu après qu'un des joueurs a recruté un septième seigneur. N'oubliez pas de récupérer des lieux car ça peut bien augmenter votre score. Abyss est un très beau jeu familial, très original dans sa mécanique de pioche, avec aussi une touche de hasard et par les pouvoirs de certaines cartes, sans oublier eh bien aussi une dose de stratégie. Il faudra parfois faire des choix et bien réfléchir pour naviguer dans les eaux troubles. Voilà, donc c'était Abyss. Alors, Yann, qui est toujours dans le studio, est-ce que c'est à peu près ça ou il y a des choses que j'ai loupées? Parce que c'est un jeu assez compliqué quand même, Abyss.
C'est exactement ça. On voit que tu as joué au jeu aussi.
Non, mais il est bon, hein.
Il est bon.
Il est bon dans son truc, hein.
Oui, non, mais ça se sent. On voit qu'il a joué.
Et justement, on va s'écouter peut-être la réaction des joueurs aussi qui ont joué à cette partie. Et ils discutent. Là, ils vont pas parler, dire ce qu'ils pensent du jeu. Ils vont discuter de la partie qu'ils ont faite.
Alors moi, Pascal, Anne-Marie, c'est vraiment un jeu que j'ai bien aimé. C'est un jeu de plateau, il y a plein de trucs, il y a plein de cartes, il y a plein d'images. Et puis chaque action, par tour, alors soit on essaie de se favoriser, on va ralentir la progression des autres. Et moi j'aime bien, je conseille vraiment beaucoup.
Ouais, moi je trouvais beaucoup de stratégies, après assez complexes à prendre en main quand même. Beaucoup de règles.
Je suis d'accord avec Pascal, ouais. Il faut bien 10-15 minutes pour comprendre l'intérêt.
Après, une fois que c'est parti, on se met bien. C'est une bonne immersion, univers fantastique, plutôt bien fait. Je sais pas, toi, Anne-Marie, ce que t'en penses?
Moi, j'ai bien aimé, mais je pense que c'est un jeu qu'il faut jouer au moins 2-3 fois pour bien appréhender et bien comprendre toutes les stratégies, comment il faut jouer, qu'est-ce qu'il faut privilégier, est-ce qu'il faut privilégier des tactiques, les seigneurs, les lieux, les clés. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. L'univers est sympa, un peu sombre, mais sympa quand même. C'est bien fait, bien écrit. Mais pour moi, c'est vraiment un jeu qu'il faut jouer plusieurs fois pour bien appréhender, mais un jeu super intéressant.
Et ce qu'on retiendra, c'est que je vous ai battu.
Ouais, bah ça, c'est...
Et moi, j'ai encore perdu.
Alors, est-ce que c'est toujours les mêmes qui perdent?
C'est toujours l'autre Mathieu qui perd au jeu. Il a pas de chance l'autre fois, mais beaucoup de jeux il perd. Donc c'est ça le principe. Il faut y jouer plusieurs fois déjà pour bien comprendre le système, savoir s'il faut choisir plutôt les clés pour avoir plus de seigneurs ou aller chercher des lieux.
C'est ça. En fait, c'est un jeu d'optimisation de ce qui va sortir sur les différents paquets de cartes. Et faut, même si on a une stratégie qui est plus liée aux perles, donc aux marchands dans le jeu, qui permettent de faire pas mal d'actions simplifiées, ou plus liées aux pouvoirs spécifiques des joueurs, ou des pouvoirs d'attaque contre les autres joueurs, il faut quand même vraiment s'adapter à ce qui sort, et ce petit côté commercial et échange qui est en début de partie peut sensiblement agacer, énerver et rendre, créer une petite tension entre les joueurs en disant bah, tiens, tu voulais cette carte là, bah, je vais te la prendre parce que je, soit elle m'intéresse, soit j'ai juste pas envie de te la laisser.
Ouais, tout voilà, simplement, c'est ça. Quoi.
Donc effectivement, quand la personne dit qu'il faut 2-3 parties, oui, il y a cette petite notion, même si c'est pas très compliqué à aborder, arriver à se projeter dans ce qui peut arriver, oui, il faut 2-3 parties.
Ouais. En tout cas, merci beaucoup Yann d'être venu sur Millennium. Ça fait toujours plaisir hein, d'avoir oui. les éditeurs qui se déplacent à la radio. Et on aura forcément l'occasion de reparler hein, des jeux Bon Beats, puisque je crois en fin de semaine, on parle de Takenoko. Donc, le jeu le plus vendu actuellement chez Bon Beats.
Tout à fait, tout à fait.
Merci Yann, à
merci
bientôt.
Merci beaucoup à vous.